Bonjour. J'ai l'immense privilège de vous présenter aujourd'hui le fantôme de Cerisy, être du Kairos. Sémioticien fondateur de la revue Protée. Jean-Pierre Vidal est professeur émérite de l'Université du Québec à Chicoutimi, où il a enseigné pendant plus de 30 ans. Interrompu par des séjours de professeurs invités à l'UQAM, il a publié chez Hachette deux études sur la jalousie et dans le labyrinthe de Rob Grillet, ainsi qu'un essai, Le labyrinthe aboli, dans la collection Le soi et l'autre, dirigée par Pierre Ouellet. Il a également publié un recueil de nouvelles histoires cruelles et lamentables, et on fera paraître un autre en septembre.
Petite mort.
Au pluriel. Je ne sais pas si le titre de sa communication a changé, puisqu'il a réécrit et réécrit sa communication à plusieurs reprises pendant la semaine. Alors, c'est toujours la stase apocalyptique ou la train indéfinie.
Absolument. Bon. Absolument. Merci. Alors, je voudrais remercier d'abord les organisateurs du colloque et aussi Pierre Ouellet, grâce à qui je suis là. J'aimerais aussi remercier ma lointaine cousine Tatiana Vidal, qui m'a aidé à faire cette communication. Alors, j'ai deux exergues. Le premier, « Regarde comme le ciel est noir », a dit l'écrivain. « C'est moi qui l'ai fait comme ça. » C'est de Bret Easton Ellis, c'est dans Lunar Park. Et l'autre citation, « C'est un homme ou une pierre ou un arbre qui va commencer le quatrième chant. Vous aurez tous reconnu Lautréamont, les chants de Maldora. À plus d'un égard et par plus d'un trait, l'apocalypse est derrière nous et son règne dure toujours. Et si, bien sûr, il ne s'agit pas de la catastrophe finale que la croyance populaire y voit, si, apparemment, nous sommes encore en vie, si ce ne fut pas, manifestement, la fin du monde, le cataclysme fut assez fort pour que tout notre univers symbolique en ait été ébranlé. Ce n'est pas tant que dans le « dévoilement » exprimé par le sens étymologique grec du mot, nous ayons été orphelins désormais de la métaphore et de la représentation, l'une et l'autre privés de l'injonction d'altérité qui les fondait, plongés dans la nudité indépassable d'un réel sans imaginaire, ou plutôt d'un imaginaire compacté dans un réel qui n'est plus, quant à lui, que l'horizon sans mystère de la technologie et de la manipulation médiatico-politique. C'est plutôt que nous avons balisé la totalité du champ de l'être et que nous occupons désormais le siège laissé vacant par la divinité, au point de lui avoir volé l'ubiquité qui était l'un de ses attributs traditionnels et d'être même, selon certains, les post-humains, qui sont tout sauf post-exotiques, au point même d'être, selon certains, sur le point de conquérir son éternité. Dans cette expansion aveugle, où la courte vue et le court terme, paradoxalement, triomphent, les sens se sont affaissés, et nous cherchons avec une belle ingénuité à faire de l'incertitude qui nous pointe et du chaos qui nous taraude le chant choral de la créativité collective. Je tenterai de montrer tout à l'heure comment Volodine procède pour que cette créativité chorale soit au moins évoquée dans son œuvre et en des termes contraires de celles fantasmées par le siècle. Comment aussi il la suscite dans le même mouvement qu'il la met en scène. Nous avons non seulement balisé jusqu'à saturation le champ de l'être, mais nous avons aussi du même souffle, mêlé cette fois à celui des fours crématoires, refusé son emprise. Nul doute en effet que quelque chose d'apocalyptique se soit ici produit et que, comme le disait Adorno, il soit désormais presque impossible de phraser après Auschwitz. Toute l'écriture de Volodine, tout son phrasé pourtant, malgré tout, se marque, me semble-t-il, dans ce presque qui entr'ouvre l'impossible et donne une chance à l'être. Encore est-ce, comme l'écrit Yann Martel dans Beatrice and Virgil, c'est un texte récent qui n'est pas encore traduit, alors vous excuserez mon anglais, mon accent, encore est-ce, comme l'écrit Yann Martel, avec des guillemets ou des sic, comme des citations, à la fois respectueuse et distanciée. Every word, every single word, would be qualified by sick, because every word, in the light of the horrors, is now erroneous. Je crois que Volodine met des guillemets partout, et pas seulement à révolution et à morale prolétarienne. J'entreprendrai tout à l'heure de montrer comment fonctionnent ces guillemets, explicitement absents, et de dire ce qu'ils occasionnent comme dommages et réparations à la vérité, comment ils se disent aussi défense et illustration de la vérité au sens grec, d'absence de sommeil, de veille, de vigilance, contre tous les mangeurs de lotus, nous, qui somnolent esclaves heureux en pipolie inférieure. Car nous touchons ici à un autre élément de notre apocalypse, celui qui a trait à la massification et à l'indifférenciation qui nous accable et contre lesquels le travail signifiant et la percée de Volodine sur le front de l'imaginaire prennent toutes leurs dimensions critiques. La pensée binaire à laquelle nous sommes de plus en plus assujettis ignore en effet la métaphore parce qu'elle exclut toute ambiguïté, toute coprésence réelle, toute polysémie. Elle écrase l'un dans l'autre, signifiant et signifié, abolit toute distance dans la multiplication infinie de l'alternative et de l'alternance, du zéro et du un, du oui et du non. Même la fameuse arborescence diégétique, où d'aucuns voudraient voir la planche de salut pourtant tendue à la littérature par les nouvelles technologies, n'est en fait qu'une linéarité excluant, malgré les apparences, toute superposition, tout filigrane, toute profondeur de champ. Les mots sont presque des choses et la communication se borne au crépitement des signaux incessants et topographiques où ne se communique plus, comme le prouvent les réseaux sociaux du web, que l'euphorie d'un contact à la limite indexicale, une euphorie oublieuse de sa virtualité, mais qui s'étend à la terre entière, se sent toute puissante et produit un chaos fait des concurrences incompatibles d'une myriade d'égos répercutés. Volodine, au contraire, outre que loin d'appeler au rassemblement jovial, il exalte les marginaux, les dissidents, les obstinés solitaires, redonne à la métaphore ses pouvoirs germinateurs par une sorte de prise au mot qui est une réactivation, un éventrement du signe pour y ouvrir et y faire circuler une distance entre signifiant et signifié. Volodine fait ainsi respirer le texte. Contre l'étouffement apocalyptique du sens absolu, version néolibérale et populiste et kitsch du savoir absolu de Hegel, il dresse la machine de guerre de l'indécidable et de l'inquiétude généralisée. Un indécidable qui est un activisme, une absence militante de neutralité, jusque dans la dérision d'une révolution impossible perpétuée à l'état de fantasme et de chant, c'est-à-dire, en fin de compte, prophétiser malgré tout, mais de ce type de prophétie qui, enchantant le discours, n'a pas besoin de se réaliser pour être une prophétie rétrospective et même une prophétie d'en deçà de la rétrospection. Là se lève une inquiétude qui est une prise de position et une assaise, une exigence aussi à l'endroit de la lecture, interpellée, foyée, sommée de se faire active et au fond de simplement se lever, répondre présent, au milieu des ruines systématiquement construites par ce divertissement au sens pascalien que les bien nommées industries culturelles ont désormais imposé à tout art et à toute littérature. Cet indécidable, cette inquiétude, cette exigence se marque dans la musique rendue au signifiant, dans la variation qui fonde son parcours et dans l'ambiguïté patiemment construite d'une diégèse hasardée comme un risque de vie. L'ambiguïté a retrouvé, a refondé même, patiemment, souterrainement, et tout ce qu'elle libère dans son épiphanie tranquille, on peut la retrouver exprimée, précise, impitoyable, noblement dérisoire aussi, dans ce passage de « Songe de Mevlido », je cite, « J'ai peut-être déjà vécu cela, marmonna-t-il, ou une variante, sous mon nom ou sous le nom de Mevlido ou d'un autre, ou ça se produira plus tard, ou jamais. » Peut-être aussi que ça demeurera sous une forme oubliée de rêve. À quoi bon démêler ce qui est avant et ce qui est après? Puisque j'ai abouti au fond du fouillis, à quoi bon faire cet effort? Fin de la citation. Le principe même de la variante onomastique, sous mon nom ou sous le nom de Mevlido ou d'un autre, on le voit, se combine à une forme de métalepse, et oui, j'ai peut-être déjà vécu cela, ou une variante, ou ça se produira plus tard, ou jamais, si la métalepse est bien cette figure de style qui, consistant à prendre l'antécédent pour dire le conséquent, exemple « il a vécu » pour « il est mort », et le choix de mes exemples n'est pas un hasard, ou le conséquent pour l'antécédent, nous le pleurons, toujours pour « il est mort », si donc la métalepse est bien cette figure de style-là, c'est une figure qui ouvre le temps du signifiant et du récit par le fait même à toutes les ambiguïtés et surtout à tous les possibles en resituant l'acte d'énonciation dans son acronie paradoxale et fondamentale à la fois. Et du même coup, en faisant parcourir l'espace ainsi dégagé comme une portée en attente de notes par une variation tendanciellement interminable. Tout est possible dans ce vortex, et aussi bien que rien n'ait eu lieu, excepté, comme dirait Mallarmé, bien sûr, ce lieu même où cela se dit, et la constellation qui peut-être s'en produira comme une conflagration. Le texte, toujours assertif, même quand il nie, itératif jusque dans ses apparents encalminements, le texte est le lieu des recommencements absolu et de la germination toujours possible des sens, parce qu'il est le lieu où tout se risque et où tout se rejoue, comme la lettre dans la tradition juive. Et je voudrais ici renvoyer au livre de Stéphane Zagdansky, intitulé « L'impureté de Dieu », et dont le sous-titre est « La lettre et le péché dans la tradition juive ». C'est un livre qui pour moi représente beaucoup, parce que je crois que c'est le seul livre que j'ai acheté rien que par son titre. En rentrant dans une librairie, ça m'a tellement frappé, l'impureté de Dieu, que je me suis dit, il faut absolument que je lise ça. Et donc, dans l'impureté de Dieu, Stéphane Zagdansky explique que dans la Bible hébraïque, contrairement à ce qui se passe dans la Bible catholique, là où nous traduisons « au commencement était le verbe », il y a dans la Bible hébraïque, au contraire, évidemment, les trois consonnes, dans laquelle on peut rentrer un nombre de voyelles qui est grand, mais pas infini. Et il prouve que Dieu, dans la tradition juive, c'est cette espèce de paradigme, ou ce nuage, c'est-à-dire ces 50 ou 60 mots et pas plus, dans lequel il y a, par exemple, je me souviens, le troupeau. Au commencement était le troupeau. Au commencement était le lieu. Au commencement était le contrat. Et si vous essayez de faire tenir tout cela dans cette espèce de synchronie magique, presque, vous avez une sorte de définition de ce qu'est Dieu pour la tradition juive. Je tenais à insister là-dessus parce que j'ai rencontré par ailleurs, dans un colloque, et ça c'est un fait qui ne s'invente pas, dans un colloque sur le faux, un rabbin, ça qui ne s'invente pas, qui m'a dit, vous savez, pour nous, Dieu c'est comme une mélodie, il faut qu'on le chante, si on ne le chante pas, il meurt. Alors c'est tout ça donc que j'inscris quand je là-dedans, si vous le voulez bien, quand je dis que c'est comme la lettre dans la tradition juive. La métalepse, figure de l'ouverture temporelle et de l'interversion toujours possible, l'avant et l'après pouvant toujours s'échanger leurs places respectives parce que le temps du signifiant les place dans la même entité, le même continuum, la métalepse contrevient par sa dynamique même à la stagnation postmoderne, car la métalepse n'est pas tant l'impossibilité de coïncider, dans l'exemple que j'ai donné, ce serait la vérité sur le cas de M. Valdemar, d'Edgar Poe, où on arrive à dire « je suis mort », alors que c'est « impossible », entre guillemets, où le personnage affirme l'impossible en disant non pas, c'est ça, ce « je meurs » dont l'opéra nous a appris, dans sa profonde vérité, que ce pouvait être une durée interminable, mais « je suis mort », ce n'est pas tant cela qui est dit que le refus désinvolte ou jubilatoire de le faire, de coïncider. Comme si, dans ce cas-là, la volonté pouvait faire la différence. Fataliste et désinvolte, la métalepse fait que, par exemple, dans Mevlido, un attentat ou tout autre événement d'importance peut avoir déjà eu lieu tout en restant toujours à venir. Elle est aussi, la métalepse, ce qui re-sacralise la vérité, puisqu'elle ne la dit jamais que de façon détournée. Elle dit qu'on n'atteint jamais la cible qu'approximativement, ou en fermant les yeux pour mieux viser, comme l'archer zen. Il s'agit, quand on y regarde de près, de fonder un autre temps, un temps en quelque sorte quantique, où la ponctualité se trouve comme désarticulée du lieu où elle s'inscrit, où tous les modes se trouvent saisis par un conditionnel universel, où l'imaginaire impose ses lois, et en particulier l'imparable rhétorique du rêve. Puisqu'avant d'être figure, la métalepse est ainsi ce qui trace les bornes de toute vie. Je suis né, impossible à dire, je suis mort, impossible à dire aussi. Puisque la métalepse est bien ce qui trace les bornes de toute vie, puisque les seuls événements qui nous appartiennent en propre, donc notre naissance et notre mort, il nous est impossible de les vivre, de coïncider avec eux sur un autre mode que mystique ou peut-être onirique, il s'agit donc de fonder, comme je le disais tout à l'heure, un autre temps. Je lis deux fois la même phrase, c'est le problème de communication éparse. Hein. Bref, alors je ne sais plus, parce que là je vais partir en boucle. Comme je vous dis, le fantôme de Cerisy est aussi un derviche tourneur, hein, ça lui arrive. Alors c'est peut-être la même fonction d'affirmation, somme toute de la puissance du verbe, que remplit la pléthore onomastique, foisonnant jusque sur les couvertures des œuvres et dans des hétéronymes. Une fonction qui consiste, telle Isis du cadavre d'Osiris dans le mythe égyptien, à recoller, à ranimer par leur réunion même, fût-elle aléatoire, les morceaux épars d'une implosion anthropique, celle que la finitude du monde et du sens nous a fait advenir dernièrement comme destin. Il s'agit bien d'entropie en effet, car l'entropie, ne l'oublions pas, n'affecte que les systèmes clos. Et le symbolique postmoderne est clos, refermé sur lui-même, rien n'y circule, le sens y est emmuré. La lenteur stylisée qui présidait autrefois aux cérémonies religieuses ou civiles a cédé la place à une autre forme de rituel, la répétition rapide et quasi infinie de la présentation en boucle, qui paradoxalement défait la représentation parce qu'elle détruit l'événement. Et tandis que les personnages de morts-vivants qui peuplent le texte volodinien sont une autre manifestation à un autre niveau du retour du cérémonial, de la densité temporelle, de l'ambiguïté, de l'altérité, de la distance, autant de configurations somme toute de ce qu'il faut bien appeler le sacré, la variation qui fait se succéder les personnages, très souvent en position de témoin qu'ils sont, mais aussi que l'on se passe, leur donne le poids symbolique d'un salut par le mouvement et de la transformation de notre boucle de vie, la faisant passer du statut d'ananke, de destin, à celui d'espace de jeu, d'une cybernétique kairotique. Voilà le deuxième mot qui arrive. Puisque kubernos, en grec, je vous le rappelle, c'est le gouvernail. Cet instrument que la métisse seule peut manœuvrer à la recherche du kairos. Et oui. Ainsi se joue un sacré sans divinité et qui retrouverait sa place, mais décentré, glorieusement marginal, dans la stratégie virale d'un mimétisme ironique. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, me semble-t-il, d'une déconstruction qui est aussi une inversion. Pour caractériser la façon dont l'œuvre de Volodine prend en écharpe la vulgate de la société du spectacle de masse de consommation, ces trois termes pouvant se combiner de toutes les façons avec des génitifs subjectifs ou objectifs et chacun pouvant se trouver tour à tour en position dominante, cette façon donc de déconstruire et surtout d'ironiser la chape de plomb qui s'est abattue sur nous quelque part au tournant du siècle, je dirais qu'elle consiste à réintroduire la négativité agissante, la force critique, le dynamisme créatif, trois termes pour moi eux aussi, plus ou moins équivalents, mais par un surcroît, une surenchère d'une part, et d'autre part par cette tactique du renversement qui utilise contre lui la force de l'adversaire. C'est la logique labyrinthique du Daidalon grec comme mode d'apparition et de saisie du kairos, cette façon juste d'avérer, comme disait encore Mallarmé, que l'on est bien où l'on doit être. Mais ce kairos est tordu, ironique. Être où l'on doit être ici, c'est être à côté de ses pompes. Toujours déporté, en retrait, ou en avance, et il faut entendre dans pompe les deux sens, hein, bien sûr. À jamais, immobile à grands pas, comme disait Valérie en parlant d'Achille qui arrive là bientôt. Achille. Dans la non-coïncidence, qui est aussi une dissidence obstinée. C'est aussi l'orientalisme, entre guillemets, de Volodin, qui gît non seulement dans la référence constante au bar de Todol, mais aussi dans des principes zen et la présence implicite de préceptes tirés des arts martiaux orientaux. Parmi ces principes, il en est qui commande d'utiliser contre lui la force de l'adversaire. Chez Volodin, entre autres choses, c'est, me semble-t-il, ce qui préside à l'autodérision partout présente. L'autodérision, en effet, est d'abord une parade qui consiste à prendre les devants de toute ironie possible, toute polémique, en assumant à l'avance la place de l'autre. Processus mimétique, donc, et processus métaleptique aussi, puisque c'est une façon, toujours, de brouiller les pistes de la temporalité du jugement, de la sanction toujours imminente, et même, pourrait-on dire, de prophétiser, précisément pour que la prophétie ne se réalise pas. Épuisant la prémonition, cette métalepse particulière est une sorte de négatif de la prétérition, qui, elle, au contraire, consiste à tirer le sens vers l'arrière, ramener ce qu'on dit ne pas vouloir faire à ce qu'on vient de faire précisément, en niant qu'on le faisait, ou plutôt en disant qu'on ne le ferait pas. Si la prétérition supprime le futur de l'énoncé au moment même où l'énonciation le pose, l'autodérision, elle, supprime toute possibilité d'énonciation future, rien qu'en la faisant advenir prématurément, car son futur à elle, c'est le lieu de l'autre qu'il s'agit ainsi d'investir et de rendre inutile. On voit que la chose est polémique, et qu'il s'agit d'investir une place, comme on le dit, d'une place forte. Ce qui m'amène à l'agone, dont on a ici déjà abondamment parlé, et même à plusieurs reprises pour l'opposer au cœur. Comme la violence s'oppose à la tendresse ou à la sympathie, ce qui, à mon sens, est une erreur. Car l'agone est, chez les Grecs, une sorte de vortex, tout autant étreinte que combat, et qui peut conduire à de forts étranges renversements. J'en arrive donc à quelque chose que j'ai intitulé « Agone et Eros, description d'un combat ». Pour illustrer l'agone, j'aurai recours au premier auteur post-exotique de l'histoire, puisque d'une part ils étaient plusieurs, et que d'autre part, cette pluralité se coiffait d'un pseudonyme qui n'était qu'un nom commun, puisque, comme vous le savez tous sans doute, Homère vient de Homéros, qui veut dire l'aveugle. Donc la légende d'Homère aveugle vient en fait d'une prise au mot, d'une prise à la lettre de ce mot qui est un mot commun, un nom commun. En ce temps-là, la littérature orale intégralement avait un efficace, en elle et par elle, une combinatoire proche du mythe, dispensée dans les consciences et dans les corps, avec le rythme et la musique des mots, l'histoire rêvée de la tribu, à base elle aussi de métalepse, et une axiologie fondée sur la négociation perpétuelle, au niveau individuel comme au niveau collectif, de ce kairos dont on a beaucoup parlé ici, tant il semble que ce concept soit particulièrement opératoire pour caractériser au moins la dimension politique de l'œuvre de Volodin. Qu'est-ce que le kairos? Je dirais que c'est un rapport juste, je l'ai d'ailleurs déjà dit, au monde et à l'action. Un rapport dont on peut penser que c'est l'agone qui l'informe et lui permet de survenir et de se laisser saisir. Car si le kairos est bien cette sorte d'accord parfait, provisoire et sans cesse à reformuler, qui permet à l'homme, à certains moments magiques, d'être au bon endroit au bon moment, c'est le sens grec de kairos, il ne se fait pas, il ne se trouve pas simplement par hasard ni par grâce. Il exige un travail sur soi, à la fois obstiné et dégagé, fait d'attention précise au monde et de cette intelligence rusée que les Grecs nommaient métis. Et le travail sur soi, qui consiste du même coup à empoigner l'autre et le monde à bras le corps, c'est l'agone, combat singulier, mais aussi étreinte, engagement total, qui passe comme dans le bardo Todol, avec ses dieux de colère et ses dieux de l'amour, que le mort doit en quelque sorte saluer, les uns après les autres, qui passe donc de la rage meurtrière à l'amour sympathique, au sens plein du terme, comme on dit que des cordes vibrent en sympathie. L'agone est cet espace paradoxal, oxymoronique, qui ouvre le monde et peut produire, comme dans le cas où j'arrive, l'Iliade donc, et peut produire enfin un parcours où le sujet déploie toutes ses capacités jusqu'à finir par faire un tour complet sur lui-même. Dans le cas très particulier que je vais traiter de la colère d'Achille, qui forme, comme on sait, la trame du texte, son évolution semble illustrer parfaitement l'empoignade entre le soi et l'autre, qu'ordonne et balise le triple sens en grec du mot xénos. On en connaît en général un seul, c'est l'étranger, bien sûr, qui a donné malheureusement xénophobe, mais ce qui est le plus surprenant, c'est que les deux autres sens du mot xénos sont hôte. Hôte au sens de qui reçoit et hôte au sens de qui est reçu. Autrement dit, et tout ça, c'est le même mot, hein, étranger, hôte et hôte. Ça donne une idée un petit peu de ce qui se pense là-dedans, comme si l'étrangeté et l'accueil étaient des positions que l'on devait être capable, tour à tour, d'occuper. D'occuper avec cette justesse que donne justement le kairos. Je crois que c'est ça qu'on voit jouer, ce sens du mot étranger, dans toute l'histoire de la... Dans toute l'histoire de la colère d'Achille, qui est quand même l'armature de l'Iliade. Comment est-ce que ça commence, la colère d'Achille? Le premier mot du texte, Ménine Aidetea, la colère chante déesse, etc. Eh bien, ça commence par la venue d'un prêtre d'Apollon qui vient réclamer à Agamemnon et aux Grecs sa fille. C'est-à-dire, c'est une histoire de femme, hein, que l'on s'échange. Mais là, c'est le père vis-à-vis de la fille. Agamemnon refuse de rendre la fille à moins qu'on ne compense. Et dans cette circulation des femmes, la seule compensation qu'il va trouver, c'est de prendre la fille qu'Achille avait déjà, hein, c'est-à-dire Briseis, la captive. Y a un espèce de contre-coup qui part du père, qui atteint Achille et qui fait qu'Achille rentre sous sa tente. Je ne sais pas si c'est très clair, mais Achille reste sous sa tente, comme vous le savez, pendant toute la durée des combats, sauf à un moment où il est question, où les Troyens menacent de brûler, de réussir à atteindre les navires des Grecs et de les brûler, c'est-à-dire de leur couper toute possibilité de retraite et de retour chez eux, hein, ce qui nous aurait privé de l'Odyssée, hein, entre autres. Et ça, c'est là qui est intéressant, et c'est là qu'on voit le travail de la littérature aussi, dans ce sens-là. Et donc, au moment où les Troyens sont sur le point d'atteindre les vaisseaux grecs, alors Achille demande à Patrocle d'aller combattre à sa place. Et d'aller combattre à sa place, ça veut dire prendre son armure, prendre ses armes. Et Patrocle va donc combattre dans la peau d'Achille, et c'est en combattant dans la peau d'Achille qu'il est tué par Hector. Et le texte dit... c'est Achille avant qui dit ça à Patrocle. Il dit quand je sors, moi, Hector se cache, il reste dans la ville. Peut-être que quand tu sors, toi, il va sortir. Et effectivement, on réussit à faire sortir Hector de la ville. Hector tue Patrocle, comme vous le savez. À ce moment-là, Achille sort de sa tente. C'est très compliqué comme ça, mais il faudrait faire un tableau à la limite. C'est pas mon genre, les tableaux. Quand on me fait un tableau, je comprends plus rien. Alors, je n'en fais pas. Mais toujours est-il que Achille finit, vous le savez, par tuer Hector à son tour. Mais c'est là que se passe la scène qui est l'aboutissement, à mon avis, de tout ce parcours de la relation d'altérité, hein, avec le féminin en sous, au départ et à la fin, avec les villes. La ville qui est là devant et la ville que l'on a quittée, la patrie, bon, où attend Pénélope, où attend la femme, etc. Toute cette histoire fait que, évidemment, le couple Patrocle-Achille est bien connu. Il endosse les armes d'Achille, c'est pour ça qu'il est tué. Et Achille, donc, pour le venger, sort et finit par tuer Hector. Et la scène capitale, c'est quand arrive le vieux Priam. Le vieux Priam, le père qui vient réclamer le cadavre de son fils, Si vous relisez l'Iliade, surtout dans le texte, vous apercevez qu'insensiblement, le rapport entre Achille et Priam se développe de telle façon qu'à la fin, Achille, en lui rendant le cadavre d'Hector, se reconnaît lui-même comme le fils de Priam. Il lui dit « Tu as un fils » ou « Comme un fils en moi ». C'est quand même assez stupéfiant quand on y pense, hein. C'est comme s'il prenait la place du fils qu'il vient de tuer à cet homme. Eh bien, je crois que tout ce parcours-là qui commence avec la querelle, parce que c'est une série d'agones tout ça, hein. C'est d'abord le prêtre d'Apollon qui vient réclamer sa fille à Agamemnon, ensuite Agamemnon contre Achille, ensuite Achille à la limite contre ou avec Patrocle, Patrocle-Hector, bien. L'aboutissement de tout ça, c'est que, effectivement, on est passé du xénos du combat, hein, du xénos de l'agone, au xénos de l'autre, à la limite. Et l'autre, au point, à la limite, presque, d'endosser la peau de l'autre, du cadavre qu'on vient de tuer. C'est quelque chose d'assez hallucinant, hein. Et c'est quelque chose qui m'est venu ici. Alors, merci à tous. C'est pour ça que je me suis trimballé avec l'Iliade pour vérifier quand même que je disais pas de trop de bêtises. Bon. Ça va. Je repars maintenant donc vers notre 21e siècle et vers un texte qui est à la fois un texte et une communauté qui vient, entre guillemets, comme dirait Agamben. Volodine et consorts, dont il advient que nous sommes, nous, les sympathisants, nous qui éprouvons avec, que nous sommes. S'il est une œuvre à laquelle Volodine semble répondre à travers les siècles, plus que telle ou telle forme de surréalisme, qu'on me l'a souvent dit, c'est bien à ces chants de Maldoror que j'aborde maintenant. D'abord, par l'évocation constante du croupissement humain, à la limite du rêve et dans une dérédiction non pas morose, mais au contraire, pour ainsi dire, triomphante ou bravache, comme dans ce célèbre passage de la strophe 4 du chant 4. « Je suis sale, les poux me rongent, les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau, couverte de pus jaunâtre. Je ne connais pas l'eau des fleuves, ni la rosée des nuages. Sur ma nuque, comme sur un fumier, pousse un énorme champignon aux pédoncules ombellifères. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis 4 siècles. Mes pieds ont pris racine. Cependant, mon cœur bat. Mais comment battrait-il si la pourriture et les exhalaisons de mon cadavre, je n'ose pas dire corps, ne le nourrissaient abondamment ? Je crois que là, il y a toute une rhétorique qui n'est pas très loin de bien des passages qu'on trouve chez Volodine. On pourrait multiplier ainsi les exemples de textes qui évoquent, chez le faux conte, l'œuvre de notre contemporain. Cette indéniable parenté, plus que le ton même, plus que la thématique souvent semblable, jusque dans l'évocation constante de certains animaux fétiches, l'araignée et l'oiseau chez Volodine, le pou et le requin chez Autréamon, plus même que le recours constant aux paradoxes et aux incompatibilités surmontées, c'est le fait que tout cela se fonde sur une stratégie littérale faite de paragrammes, d'allitérations, de variations en forme de fugue. Je pense à l'extraordinaire torsade musicale qu'est l'ouverture de Lisbonne Dernière Marche. Bref, de tout un travail du texte qui n'a rien à voir avec le formalisme, si tant est qu'une telle chose existe. Travail du texte dont Bruno Blankmann nous a bien montré qu'il s'agissait d'une charge, c'est-à-dire une ruée, mais qui pouvait être lente, et un potentiel d'explosion sémiotique, onirique, poétique et politique. Pour en revenir à Autréamon, dans les parentés, c'est-à-dire aussi les différences éclairantes et pour l'un et pour l'autre, qui l'unissent à Volodine et l'en séparent, on n'a qu'à comparer, par exemple, dans les chants, la transformation de la séquence « Ô poulpe au regard de soie » en « Ô poux à la prunelle recroquevillée » et celle qui fait ressurgir l'incantatoire « Je te salue, vieil océan » de la strophe 9 du chant 1 en un « Je te salue, soleil levant » qui est l'anagramme presque parfait, hein, ce qui est stupéfiant, qui repose en outre sur le rapport poulpe-pou que j'évoquais à l'instant, puisque ce soleil levant qu'on chante ici n'est autre que le pou à la prunelle recroquevillée, pendant le pendant du poulpe au regard de soi, qui habite l'océan. C'est une intrication semblable du littéral et du thématique, du narratif et du diégétique, de l'image, dans toute l'ambiguïté du terme, et du son, que l'on retrouve, presque tous ceux qui ont ici parlé l'ont montré, chez Volodine, avec la même puissance d'engendrement, le même dynamisme signifiant. Prenons par exemple le motif du ruissellement dans « Songe de Mevlido ». Apparaissant à intervalles assez réguliers, comme une pulsation, il touche l'atmosphérique, le physiologique, l'organique, en se distribuant sur une succession qui est aussi phonique et littérale. Pluie, sueur, suie. Si je les dis les uns à côté des autres, c'est l'effet que ça produit. Comme si cette microphrase commandait en sous-main, tenait comme des points de capiton une macrostructure diégétique et les figures qui s'y agitent. Et comme très souvent chez Lautréamont, on peut aboutir, ça et là, à ce qui se donne comme une incongruité, une étrangeté, une impropriété peut-être, un apax ou un oxymoron sûrement. Par exemple, ce « manteau ruisselant de suie » de la page 403 de Mevlido, où l'on voit d'une part la suie se liquéfier et d'autre part le mat devenir luisant et le sombre clair, dans un véritable émiettement, qui fait que dans cette dissémination presque corpusculaire, un écoulement, un effondrement conjoint l'homme et le paysage, l'homme et son vêtement, l'homme et sa peau. Transformation à vue qui traduit l'activité d'une véritable machine signifiante à produire des images que l'on pourra bien qualifier de surréalistes, mais qui surtout entraînent la lecture dans des contorsions qu'elle ne remarque pas toujours, prenant allègrement des vessies pour des lanternes, du lard pour du cochon et la chèvre pour le chou. J'utilise à dessein des formules idiomatiques pour faire allusion, comme l'avait fait Blankman, au fait qu'il arrive ici souvent que les développements les plus imaginatifs soient une variation échevelée sur les mots de la tribu. Ce que Calvino appelait la machine littérature travaille en effet le texte de l'autre, l'étrangeté du familier, et c'est ainsi qu'on prend des morts pour des vivants, des hommes pour des oiseaux et des femmes pour des hybrides aviaires, un peu comme dans l'Iliade, le cheval d'Achille parle à son maître, comme le premier fleuve venu. Tout s'anime et tout parle, et le kairos rafle la mise. Car pour que le monde s'anime vraiment, change de base, s'ébroue, sorte de la stase où il se fige, il faut engager le combat, se lancer dans l'agone, s'en trouver refait, dépassé, floué, autre et ailleurs, hôte et étranger, disponible et militant. Et le reste, tout le reste, n'est pas littérature, n'est pas vraiment politique. Certes, il semble que nous soyons de plus en plus, comme les héros de Volodine, des survivants, des martyrs dérisoires, des souterrains, voire des catacombicoles. Mais, pour terminer grec, comme disait Léonidas à ses troupes aux Thermopyles, qui veut dire gorge chaude en passant, hein, ils sont milliards, ils sont myriades, ils sont légions, nous sommes 300, encerclons-les. Merci.
Merci Jean-Pierre pour cette magnifique communication, aussi drôle que variée, qui a fait écho à plusieurs choses qui ont été dites, puis, mais pas seulement. Je ne retarderai pas le moment magique, le kairos de la discussion, et je ferai comme la métalepse. Je passerai donc l'antécédent au précédent en vous donnant la parole. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques.
C'est l'antécédent au précédent, ça c'est pervers, hein? Parce que c'est l'antécédent aux conséquences.
Aux conséquences. Oui.
J'espère ne pas vous avoir rendu muet.
La prophétie d'Indossa de la rétrospection.
Oui.
Vous pouvez expliquer mieux?
Je crois pas que ça... Ah oui. Ben, je crois que c'est justement un des effets... Ben, c'est en même temps un effet et le lieu même de ce qu'est la littérature. C'est-à-dire le lieu où tout peut se penser comme pouvant être possible, y compris des choses qui, logiquement, sont impossibles. Je me donne, quant à moi, toujours ce critère. Pour moi, c'est le critère absolu de la littérature. Quand je lis un texte pour la première fois, si je ne sais pas ce que c'est, si ça me dépasse, si ça me travaille de tous les côtés, mais si je sens que ça existe, pour moi, c'est de la littérature. Et c'est curieux parce que ça rejoint ce que disait, je ne sais pas si vous connaissez la phrase, ce que disait Bertrand Russell des mathématiques. T'es lui-même un mathématicien, hein. Et il disait ceci, quand on ne sait pas de quoi l'on parle, ni si ce qu'on dit est vrai, on fait des mathématiques. Et je disais ça souvent à mes étudiants, moi, c'est pareil, hein. Quand on ne sait pas de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai, on fait de la littérature. Mutatis mutandis, hein. Mais je crois que ce que je trouve, en tout cas, dans l'œuvre de Volodine, c'est cette espèce de chose qui vous saute dessus et qui vous prend, qui vous empoigne et qui vous fait faire des choses comme des prophéties d'avant la possibilité de toute prophétie. Ce qui explique d'ailleurs, me semble-t-il, aussi que la littérature, c'est un phénomène que j'ai essayé aussi d'illustrer peut-être maladroitement devant vous, c'est-à-dire que en avançant, on recule, hein. Tout le colloque que j'ai passé ici à écouter et j'ai payé d'une communication mon propos qui était d'abord et avant tout d'écouter. Je venais écouter, je ne suis pas un spécialiste de Volodine, mais ça m'intéresse, donc je venais écouter, mais pour pouvoir écouter, il fallait que je parle. Et donc j'avais préparé quelque chose, mais au fur et à mesure que j'écoutais, je parlais. Et au fur et à mesure que je parlais, je me défaisais. Et donc, j'ai recomposé cette communication. Et en la recomposant, c'est ça qui m'a frappé, j'ai reculé de plus en plus dans la littérature. Hein. J'ai passé Edgar Poe, Lautréamont, et alors Homère, quand même, il faut le faire. Hein. Mais c'est parce que je crois que c'est ça, la littérature. Je crois que tout écrivain véritable, quand il apparaît, et on pourrait discuter longuement sur le sens de véritable, mais bon, je crois que ce n'est pas le propos ici, tout écrivain véritable ou d'importance, tout écrivain tout simplement, quand il apparaît, réactive toute la littérature d'avant lui. Ça a été ma carrière, ça a été ça. Quand je me suis mis au grec, parce que c'est les étudiants qui m'avaient poussé, c'est incroyable, j'avais pas fait de grec pendant 40 ans. Je me suis remis au grec, j'ai vu chez les grecs des choses que les hellénistes patentés n'avaient jamais vues. Pourquoi ? Parce que j'ai lu Homère à travers Rob Grillet, entre autres, hein. Et maintenant, je reviens avec Homère, peut-être dans Volodine, peut-être que c'est impertinent, peut-être que ça l'est pas, mais je crois que la littérature, c'est comme ça. Et curieusement, je crois qu'il y a dans les chants de Maldoror de Lautréamont une espèce de métaphore, c'est de ça. C'est ce qu'il appelle le vol des étourneaux. Le vol des étourneaux, c'est un espèce de tourbillon qui avance. Mais on ne sait pas comment il avance, mais il avance aussi d'une certaine façon en reculant. C'est quelque chose d'hallucinant. Je crois que la littérature, c'est ça, foncièrement. Donc, ça produit un espace qui n'a pas d'équivalent.
Pierre Ouellet.
Oui, tu as parlé à quelques reprises d'une sorte de prosopopée généralisée qu'on trouve à la fois chez le gouvernement et chez le dit, puisque on fait parler des poux, on fait parler des araignées, on se met dans leur peau. Et c'est intéressant parce qu'on se met dans la peau finalement de parasites. Alors on dit qu'on est l'hôte, en général, des parasites, et là, c'est soi-même qui a évoqué, bien sûr, cette notion.
C'est ça, le Xenos, oui.
On avait parlé de cette espèce de sens opposé qu'on trouve dans l'hôte, comme dans Mounous, qui a donné communauté,
j'en ai
dit quelques mots lors de la première communication. Donc, il y a ce phénomène assez étrange, où on épouse l'ennemi, le poux, l'araignée, qui normalement doit nous phagocyter, nous parasiter, alors que la personnification et la prosopopée fait l'inverse. Hein, le ventriloque, dont on a beaucoup parlé aussi, finalement, parasite la poupée dans laquelle il se projette et qu'il fait parler à sa place. Alors, il y a une espèce de dagone là aussi. La dialectique entre l'homme et le poux, l'homme et l'araignée, devient une forme d'épousaille ou d'étreinte, comme tu disais. C'est-à-dire le combat devient une sorte de non pas d'identification, mais presque, j'allais dire, de métempsychose, de réincarnation. On se réincarne à la chose, hein, ou araignée.
Ben, c'est un peu comme ça que moi j'interprète la présence du bardo Todol dans l'œuvre de Védédine aussi, oui. Oui, mais d'ailleurs j'avais préparé aussi quelque chose que j'ai abandonné. Une référence à Marx, la théorie de la valeur qu'il y a dans le chapitre 1, livre 1 du Capital. On en parlait beaucoup dans les années 60, parce que cette théorie de la valeur, Marx dit que la forme la plus simple, c'est aussi la plus compliquée. C'est celle qui consiste à la limite à produire un spectre. Et comment produit-on un spectre ? C'est dans le stade du troc, où Marx dit, par exemple, quand on est dans l'économie du troc, c'est pour ça que c'est la forme la plus simple de la valeur, on mesure la valeur d'un objet avec le corps de l'autre. Hein? Cette paire de lunettes vaut cette montre. Mais, justement, j'exprime la valeur de la lunette dans la montre. Et il dit aussi à un certain moment, et ce qui fait que la valeur est un spectre. C'est le spectre d'une relation. Et j'avais préparé un développement disant, oui, le spectre, bien sûr, et il faut comprendre spectre en plus dans tous les sens du terme. Hein? Spectre, c'est-à-dire, disons, l'amplitude de la variation. L'amplitude de la variation possible, c'est ça aussi un spectre. Et ça, c'est aussi la valeur pour Marx. Donc c'est quelque chose quand même qui est extrêmement intéressant, hein, surtout dans le contexte où nous sommes. Et donc vous voyez, ça illustre un peu tout ce que je disais précédemment de ce qu'est la littérature. C'est justement cette espèce de... Bon, moi, toujours la métaphore que j'utilise, c'est le vortex. C'est un endroit, non pas qui produit de l'énergie comme on le croit trop souvent, mais qui infléchit les énergies, qui procède, qui change de sens. Donc d'où le xénos, avec cette espèce de relation d'altérité qui est en même temps une identité. Et ça, cette relation d'altérité qui est en même temps une identité, ça oblige, je dirais, à la vigilance, parce que faut quand même pas endosser la peau de l'ennemi. À moins de se mettre à sa place. C'est ce que fait Achille, finalement. Et ça, c'est quelque chose de... Mais se mettre à sa place pour le changer de l'intérieur. En tout cas, c'est... Bon, enfin, vous me comprenez, je crois que c'est le principal.
Antonin, tu voulais intervenir. Frédéric, je crois, après, ou non ? Ok. Ah, c'est bien.
La valeur pour aborder ma question, parce que la question dans le fond c'est à partir de la dernière phrase par laquelle vous avez conclu votre exposé, comment pour que
c'est une vieille blague, hein.
Stage, il faut s'engager dans la zone, voilà le, oui. Ce que j'ai là. Je reformulerai ce que j'ai retenu. La circulation de ces agones que vous avez que j'ai trouvé très très intéressant dans la lecture de l'Iliade, justement, hein, on déplace de l'un à l'autre, mais finalement on tourne en rond. C'est la formule que vous avez utilisée du tourbillon qui avance. Voilà,
c'est-à-dire qu'on ne tourne pas en rond, hein, on revient au même endroit, mais on l'a changé. C'est plutôt le tourbillon que le. C'est pas une boucle.
Alors, voilà, parce que c'est on se déplace, mais on se déplace, est-ce qu'on sort ? C'est un peu ça la question que je me posais. Est-ce qu'on sort de la stase ? Puis, je reprends alors l'image de la circulation de la valeur, finalement, elle circule de manière continue. Il y a une extension, évidemment, du terrain. C'est l'accumulation.
Ouais. C'est
Et puis chez Marx, on s'en sort en... par-dessous, enfin, c'est une des manières de sortir de la sphère de la circulation, c'est la regarder de la sphère de la production, là on se fait tanner, hein, on entre dans l'enfer, c'est les formules qui... Alors que l'autre manière de s'en sortir, toujours c'est les formes de transparence, qui sont de société transparente, qui sont évoquées à la fin du même chapitre, mais où dans le fond on ne sort pas de la circulation, moi, je crois, on ne sort pas du fétichisme non plus, c'est une parenthèse sur une lecture de...
Moi, je crois que si on en sort, mais ça rejoint quand même un peu le la gauze.
On sort chez
Bologne,
c'est ça, en fait.
Là. Oui, ben, moi, je crois qu'on en sort comme on en sort toujours dans la gauze, c'est-à-dire de façon ambiguë et d'une façon que moi, je symboliserais, enfin, que j'exprimerais par le mot travail, mais travail dans le double sens. Hein. Travail, on travaille et on est en travail. Parce que je crois que l'écrivain, c'est ce qu'il fait. Quand il travaille la langue, c'est la langue qu'il travaille aussi. Hein? Donc il y a bien sûr une distance, il a quand même un matériau, mais ce matériau, c'est aussi en grande partie de lui. Nous sommes faits de langue. Et je crois que c'est précisément ce que la situation actuelle évacue complètement. Hein? On est dans la société du spectacle, c'est précisément ce qu'elle évacue. Ce travail dans ce sens-là. C'est-à-dire cet engagement qui fait que, vous engageant dans quelque chose, vous êtes travaillé par ça. C'est un travail, mais c'est un travail au sens artisanal aussi. Hein. Ça, moi, je crois qu'il y a une dimension politique considérable là-dedans. Mais il faudrait y réfléchir et travailler ça et développer beaucoup de choses. Mais c'est comme ça que je prends le texte de Volodine. La dimension politique du texte de Volodine, c'est là que je la vois. Moi, je crois qu'effectivement, ça consiste à briser la stase apocalyptique, à la faire bouger, mais en partie en réactivant certains de ses secteurs. C'est ce que j'ai appelé la stratégie orientale, utiliser la force de l'adversaire. Un détournement.
Pierre Ouellet.
Tu as évoqué brièvement l'intérêt de Dieu de Saint-Denis. Oui. Et tu as glissé comme ça dans ton propos le fait que l'homme occupait la place du Dieu absent. Et il y a dans ce livre de Zagdansky une présentation du Tzim Soum hein, dans la tradition hébraïque, qui renvoie au retrait de Dieu pour que la créature puisse exister, puisse prendre sa place. Et il me semble que chez Antoine Volodine, finalement, ce qui se retire, ce n'est pas tant Dieu que l'homme avec un grand H, avec toutes ses ambitions égalitaristes, etc. Et que ce qui reste, hein, le sous-homme, l'animal, la bête, l'araignée, voire la poupée, aussi la marionnette, le bout de chiffon et le débris dans lequel on peut se projeter à travers la prosopopée, et même d'une certaine manière les cendres, hein, tout ça, les morts vivants, les ossements, les bouquins, comme je disais la dernière fois. Donc tout ce qui finalement ne peut plus être porté par cette image, je dirais analogue à celle du divin, qui était l'humain, de l'humanisme classique. Et donc c'est une sorte de tinsum, je dirais immanent, hein, au monde terrestre, auquel on assiste dans cette déflagration que l'esthétisme explore. Et là, il y a une autre dimension politique, je pense, de cette œuvre-là, qui consiste à dire voilà, comment occuper justement un territoire qui a été évacué, hein, où il ne reste que des traces d'une sorte d'extermination de l'image idéale ou idéale que l'homme s'était fait de lui-même, hein, et est une sorte de miroir du divin. Il me semble qu'on avait déjà ça, d'une certaine manière, chez l'autre Léamon.
Hein, oui, moi j'en suis persuadé. Si oui, parce que la fameuse strophe de Dieu au bordel, ouais. Dieu qui voit aller au bordel.
C'est ça, juste en un peu sur cette idée du
Tzimtzoum,
je sais que
tu as un peu travaillé. Je comprenais plutôt en rapport avec, dans la tradition juive, avec le Talmud. Hein, c'est-à-dire, par exemple, le fait qu'il y a la Bible, il y a la Torah d'une part, mais il y a aussi le Talmud. Et ils sont non seulement complémentaires, mais intriqués l'un dans l'autre. Hein. Moi, je crois que la dimension politique de l'œuvre de Volodine, elle est aussi dans le fait que nous chantons ensemble. Cette chose qui n'est pas Dieu, qui est au contraire
la lettre vient prendre la place de l'esprit de l'écriture.
Oui.
Donc il faut constamment réanimer la lettre, raviver la lettre, comme ça en l'absence de l'esprit.
Si j'osais, je dirais que c'est un matérialisme dialectique, mais je n'oserais pas. C'est une prétérition, vous avez remarqué.
Il y a d'autres interventions, d'autres remarques, questions. Sinon, je vous inviterai à prendre une pause de 15 minutes.